Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardeau et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Dans la chronique précédente, Daniel, vous aviez dressé un bilan non exhaustif, disiez-vous, de la présidence française du Conseil de l'Union. Or, comme en 2008, cette présidence s'est déroulée sur fond de crise géopolitique majeure. Alors, quelle réponse européenne à l'agression russe? Comment a-t-elle contribué à donner une réponse à cette agression?
Voilà. Évidemment, elle a contribué. Elle n'est pas la seule, loin s'en faut, mais elle a effectivement capacité, la présidence, d'impulsion. Alors, l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, en plus de provoquer sidération et inquiétude, a bousculé l'agenda européen. Elle a provoqué une intense activité diplomatique, sommets européens, réunions d'ambassadeurs, rencontres extraordinaires des ministres des Affaires étrangères, des ministres de l'Intérieur, des ministres de l'Énergie, avec un impératif absolument majeur pour les 27, et j'insiste, absolument majeur, forger une réponse commune, et on sait qu'à 27, ça n'est pas simple. En 6 mois, l'Union européenne a mis en place une série de mesures de soutien à l'Ukraine. Dès le 24 février, un premier train de sanctions a été adopté, suivi jusqu'au début juin par 5 autres. Alors, outre les sanctions frappant plus d'un millier d'individus et une centaine d'entités impliquées dans la guerre, ont été décidées la fermeture de l'espace aérien aux avions russes, l'exclusion de banques russes et biélorusses du système de messagerie bancaire SWIFT, l'interdiction des échanges financiers avec la Banque centrale de Russie, des restrictions commerciales, notamment un embargo sur le charbon et le pétrole russe. Dès le 27 février, le Conseil a décidé de financer les livraisons d'armes à l'Ukraine et a mobilisé à plusieurs reprises un instrument extra-budgétaire que l'on appelle la Facilité européenne pour la paix, créé en 2021 et qui a permis de compenser financièrement auprès des États membres les livraisons d'armes et d'équipements de protection à l'Ukraine. Lors du sommet de Versailles en mars, en déclarant que l'Ukraine faisait partie de la famille européenne, l'Union a ouvert la porte pour l'obtention du statut de candidat à l'adhésion. Enfin, bien qu'en discussion avant l'agression russe, la boussole stratégique qui définit les grandes orientations de la sécurité et de la défense européenne jusqu'en 2030 a été adoptée en mars 2022, non sans être modifiée afin de prendre en compte la menace russe et muscler la réponse européenne en complément de l'OTAN, bientôt élargie à la Finlande et à la Suède. Ainsi, l'Union va-t-elle se doter d'ici 2025 d'une capacité de déploiement rapide, entre guillemets, de 5000 hommes?
Alors, la sécurité et la défense de l'Europe sont-elles les seuls domaines percutés par la guerre en Ukraine?
Non, plusieurs autres domaines ont été touchés et ont nécessité une réaction rapide. Dès le 24 février, l'épineuse question de la dépendance énergétique européenne s'est imposée à la présidence française. Alors certes, l'énergie relève de la compétence nationale, mais l'ampleur du défi, notamment pour certains États membres totalement dépendants de l'approvisionnement russe, a imposé de répondre collectivement. En mai, Conseil et Parlement européens sont tombés d'accord sur plusieurs mesures, avec pour objectif évidemment l'indépendance énergétique. Alors cela va de l'augmentation de la capacité de stockage de gaz avant l'hiver, à la promotion d'autres sources d'énergie, ce sera d'ici 2030 40% d'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique, en passant par la réduction de la consommation d'énergie, 9%, une réduction de consommation d'énergie finale, toute énergie confondue, donc au niveau de l'Union, toujours en 2030, c'est un effort considérable. Autre dossier réactivé, le voisinage de l'Union européenne dans une double direction, selon une double approche. D'une part, la question de l'élargissement. Cela concerne le problème d'intégration des Balkans occidentaux, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Kosovo. Tout ça bloqué par le veto bulgare depuis 2020 à propos d'un différend avec la Macédoine du Nord. Pour arrimer les pays candidats dépités face aux difficultés et à la durée du processus d'élargissement, le président français a avancé un projet de communauté politique européenne, CPE, censé faciliter une adhésion rapide à la dimension politique de l'Union tout en préparant une intégration économique de moyen terme. La guerre russe a fait rebondir la question de l'élargissement avec les demandes ukrainiennes, moldaves et géorgiennes. Après quelques hésitations, le 23 juin, le statut de candidat à l'adhésion a été accordé à l'Ukraine et à la Moldavie. Et dans le même temps, le projet français de communauté politique européenne a été validé. À la deuxième direction, le deuxième volet, c'est du voisinage, c'est l'Afrique, hein, avec laquelle, évidemment, notamment la France, les relations sont étroites, la France en ayant fait une de ses priorités. Alors si, en février à Bruxelles, un sommet UE-UA, Union africaine, c'est-à-dire l'ensemble des pays africains, a renouvelé le partenariat dans les domaines essentiels, sécurité, environnement, la santé, les migrations, les ambitions africaines de la Chine, de la Russie et même de la Turquie sont très grandes et s'affichent.
Alors, s'agissant de voisinage, la crise ukrainienne a-t-elle fait évoluer le dossier de l'accueil des migrants ?
Alors, comme nous l'avons vu dans la chronique précédente, la présidence française a obtenu la reprise et le déblocage des discussions sur l'asile et la migration. Et en juin, le Conseil a approuvé un mécanisme volontaire de solidarité, hein, pour la relocalisation des demandeurs d'asile. Ce déblocage, consenti par des États jusque-là réfractaires, a sans conteste été facilité par l'affaire ukrainienne, par l'aide financière aussi rapide et apportée par l'Union aux pays d'accueil des Ukrainiens, qui étaient souvent des pays d'ailleurs réticents face à... Début mars a été activée la protection temporaire d'un an, hein, assurant aux quelques 7 600 000 Ukrainiens ayant quitté leur pays le droit au séjour, l'accès au marché du travail, l'accès au logement, les aides sociales et médicales, et pour les enfants, l'accès à l'éducation. Autant de protection pas forcément accordée à d'autres, hein, faut bien le dire. Alors la présidence française du Conseil, présidence de crise, a été très réactive. Comme l'a déclaré la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, la France peut être fière. Or, étonnamment, hein, ce bilan positif n'est aujourd'hui pas perçu par l'opinion publique française.